Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante série intitulée « Le complot meurtrier contre Jésus ». Nous arrivons à l'étude numéro 7 et aujourd'hui nous avons le reniement de l'apôtre Pierre. Tandis que Jésus se trouve dans la maison du souverain sacrificateur où sa vie se joue, Pierre se tient juste à l'extérieur dans la cour. Sa vie à lui aussi est en train de se jouer, quoique d'une manière totalement différente. Satan est en train de le cribler comme le froment. Saint Luc chapitre 22 verset 31. Dieu permet souvent que nous traversions diverses épreuves. C'est que le processus d'épuration qui en découle s'avère essentiel et, pour les vrais croyants, il se révèle même toujours bénéfique au bout du compte. Saint Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. Mais le secouement violent que requiert ce processus est fondamentalement perturbateur et souvent même très douloureux. En fait, dans le cas de Pierre, la souffrance associée au processus d'épuration se comparait davantage à la brûlure, on peut dire à la brûlure d'un creuset de fondeur, que au secouement d'un plateau de grain. Et voilà pourquoi plusieurs années après, Pierre, en encourageant d'autres à tenir bon, et tenir bon sous le feu de l'affineur, à toute occasion, c'est donc là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or, on peut dire que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. L'épreuve à laquelle Pierre est soumis ici sert assurément à épurer sa foi, même malgré son terrible échec. Au cours des années à venir, le souvenir de cette horrible nuit ainsi que de son rétablissement subséquent par un maître indulgent l'encouragera indubitablement à surmonter d'autres épreuves et même de plus grandes sans jamais plus renier Jésus. En fait, l'apôtre Pierre finira par sacrifier sa propre vie. Tout cela par amour pour son sauveur bien-aimé Jésus. Saint Jean, chapitre 21, versets 18 et 19. Mais en cette infâme et ultime nuit du ministère terrestre de Jésus, Pierre ne se montre absolument pas à la hauteur. Immédiatement, après avoir fait son constat d'échec spirituel, Pierre pensera sûrement qu'une conduite aussi honteuse qu'un tel échec ne pourra jamais rien produire de bon. Il présumera probablement que son ministère pour Jésus sera bel et bien fini. Mais Jésus-Christ n'en aura cependant pas encore terminé avec Pierre. Le récit du reniement de l'apôtre Pierre constitue donc une leçon portant sur l'assurance de la grâce salvatrice de Dieu. En fait, dans ce récit, l'Écriture sainte ne met pas l'accent sur l'échec de Pierre, mais sur le pardon du Seigneur, ce qui n'est pas du tout pareil. Or, si l'Écriture sainte nous en communique les faits avec force détail, ce n'est pas tellement pour nous rappeler notre fragilité humaine, mais plus important encore, pour nous rassurer quant à la merveilleuse sécurité que nous avons en Jésus-Christ. Depuis le tout début, lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre et aux autres disciples que Satan voulait les cribler comme le froment, il les a subtilement assurés de la victoire qu'ils allaient indéniablement connaître à long terme. Voici donc ses paroles. Jésus a dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Saint Luc, chapitre 22, verset 32. Donc, de toute évidence, l'échec temporaire des disciples ne constitue qu'un autre élément du plan parfait de Jésus et donc quelque chose dont il se servira même pour faire le bien. En raison donc de la grâce que Jésus leur accorde lors même de leur échec, les disciples sont préparés de manière unique à affermir leurs frères et sœurs pour qu'ils s'épargnent un échec semblable. Lorsque Rome fera ultérieurement déferler ses vagues de persécution sur l'Église primitive, de nombreux croyants seront alors fortement tentés de renier ou même d'abandonner Jésus pour sauver leur vie, comme l'auraient fait les disciples. Notons que les disciples, ayant tous bu longuement à la coupe d'amertume et de tristesse que produit un tel abandon, sauront beaucoup mieux que quiconque comment encourager par la suite des croyants faibles comme nous et craintifs à demeurer fidèles. Le Saint-Esprit se servira d'ailleurs de l'apôtre Pierre à cette fin-là avec puissance. 1er épître de Pierre, chapitre 3, versets 14 à 17. De plus, au cours de cette nuit sombre du reniement de Pierre, bien que le courage et la consécration lui fassent défaut, sa foi en Christ ne défaillera pas. Voilà qui distingue l'abandon temporaire de Pierre à des autres disciples de la trahison de Judas. En désavouant Jésus-Christ, Judas a agi de manière délibérée, voire même préméditée, irréversible et définitive. Il a posé un geste témoignant d'une incrédulité totale et endurci, tandis que Pierre a agi par impulsivité et lâcheté, et cela dans un moment de faiblesse. La foi fondamentale de Pierre en Jésus demeurera intacte tout au long de l'épreuve et à jamais par la suite. Bien que sa conduite soit certainement pécheresse, elle ne s'inscrit pas dans la même ligne que la trahison de Judas. Bien entendu, Jésus sait que, contrairement à Judas, pierre, ne le rejette jamais, jamais impitoyablement. Et c'est pourquoi, peu après sa résurrection, Jésus s'adressera tendrement à Pierre et lui pardonnera en présence des autres disciples. Il le rétablira alors complètement dans son ministère apostolique. Saint Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Ainsi, c'est une grande victoire et non pas une défaite qui marquera le chapitre final de l'histoire de l'apôtre Pierre. Par contre, le chapitre qui se déroule en cette nuit fatidique raconte une défaite cuisante à tous les égards. Malheureusement, comment décrire la chute de notre cher Pierre? Il importe de remarquer que son échec n'est pas spontané. Pierre pose des gestes qui le mèneront à l'échec. Pour examiner ces gestes de manière systématique, il est donc nécessaire de prendre un peu de recul dans le récit de Saint Matthieu pour revoir quelques passages qui nous sont déjà connus. L'apôtre Pierre s'est trop fortement surestimé. La première erreur que Pierre a commise, c'est de s'être montré trop sûr de lui, beaucoup trop sûr de lui lorsque Jésus a prévenu pourtant ses disciples qu'ils étaient sur le point de tomber de haut. Rappelons-nous ses paroles. Quand Jésus a dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées » Saint Matthieu chapitre 26, verset 31. Or, ces paroles auraient dû interpeller instantanément Pierre et les autres. Toute personne avisée aurait fait preuve d'humilité et aurait supplié le Seigneur de lui donner la force de résister à une telle tentation imminente. Mais voilà, pas Pierre du tout, non, non. Au lieu de cela, Pierre tombe, il bombe le torse. Voyez, on dit des fois, il a bombé le torse. Et il a dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, eh bien, tu ne le seras jamais pour moi. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Verset 33 de Saint Matthieu, chapitre 26. Voyez-vous, Pierre, qui servait souvent de porte-parole à tout le groupe, semblait particulièrement enclin à une impétuosité empreinte d'imprudence. Il lui arrivait très fréquemment de parler avant d'avoir réfléchi. Oh, c'était mon cas aussi, je le reconnais. À quelques occasions, il est même allé jusqu'à contredire Jésus comme la foi dans Saint Marc chapitre 8 verset 32, où Pierre a pris Jésus à part pour le reprendre, parce que celui-ci avait dit que les chefs religieux allaient le rejeter et le tuer. Il va sans dire que Pierre voulait bien faire, bien sûr, mais Jésus a dû s'empresser de le remettre à sa place. Ce faisant, il a appelé Pierre Satan, puisque au fond, c'était bel et bien Satan qui était le véritable auteur de ces paroles. Et il lui a reproché de trop se préoccuper des affaires de ce monde et pas assez de celles du royaume des cieux. Verset 33. Pierre aurait donc dû écouter plus attentivement. Si seulement il avait réfléchi à l'identité de Jésus, alors là, Pierre se serait rendu compte que, en toutes circonstances, il lui était totalement ridicule de reprendre Jésus. En effet, il est tout à fait incongru de déclarer, comme Pierre venait de le faire, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, selon Matthieu chapitre 16, verset 16, pour ensuite essayer de le corriger après dans son enseignement, verset 22. Malheureusement, Pierre ne semblait pas toujours savoir quand il ferait mieux d'écouter que d'ouvrir la bouche trop rapidement. Mais Pierre ne voulait rien entendre. Dans son impudence, il a pensé connaître son propre cœur bien mieux que Jésus ne le pouvait. Il continuait donc de maintenir qu'il ne faillirait jamais, jamais, même s'il ne devait rester que lui au monde pour défendre Jésus. Mais voyez-vous, toutes les bonnes intentions du monde ne valent pas la véritable vertu. La vantardise et la hardiesse sont deux choses bien différentes. La fanfaronnade de Pierre n'a fait que prouver sa folie et non pas sa fidélité. C'est en demeurant fidèle sous le feu des ennemis de l'Évangile et non à force de discours ronflants et de, on peut dire, de délibérément, on peut dire bien, oui, devant, de bomber le torse devant les frères et sœurs, que on peut le mieux témoigner de notre allégeance sincère à Jésus. Donc, on voit bien que Pierre n'avait pas la moindre idée de la gravité de l'épreuve qui allait traverser sous peu. Et voilà donc d'ailleurs qui rendait sa vantardise toute confiante particulièrement déplacée. Car en fait, sa fanfaronnade, elle constituait la pire réponse que Pierre pouvait faire à la tendre mise en garde du Seigneur dont il s'apprêtait à faire fi. Pierre aurait donc dû écouter plutôt que de parler beaucoup trop vite. Il aurait dû prier, et surtout cela, pour recevoir l'aide du Seigneur, de Dieu le Père. Au lieu d'afficher uniquement sa suffisance, on voit donc que par sa vantardise, Pierre n'a fait que se gonfler d'orgueil. Et cet orgueil qui réside au cœur même du problème de Pierre depuis tout le début, eh bien le sentiment d'invincibilité qui l'a poussé à se vanter, cela témoigne donc de son orgueil de pécheur. Pierre a donc fait fausse route également parce qu'il a négligé la prière. Lorsque Christ est entré dans Gethsémané, cette fameuse nuit-là, eh bien, il a délibérément amené, qui sait, il a amené Pierre, Jacques et Jean avec lui au fond du jardin, où il leur a dit à tous les trois, restez ici et veillez avec moi. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 38. Jésus souhaitait d'aller voir prier avec lui. Mais il a dû les réveiller et les presser de prier avec lui à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs à leur propre avantage. Ils avaient bien plus besoin que lui d'être affermis et d'avoir leurs forces renouvelées, mais ils n'étaient pas du tout conscients de leurs propres besoins. Il n'y avait donc que la prière pour fortifier Pierre et pouvoir l'aider à surmonter la tentation dont le Seigneur l'avait pourtant prévenu. Mais, ayant déjà fait fi de la mise en garde de Jésus, Pierre ne réalisait pas du tout qu'il devait désespérément prier pour que Dieu le Père puisse l'affermir. Je suis convaincu que la plupart des problèmes et des échecs que connaissent les chrétiens sont directement liés à l'absence de prière, comme le confirme ceci: vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques, chapitre 4, verset 2. Peut-être Pierre aurait-il pu s'éviter de défaillir s'il avait obéi au Seigneur et s'il avait consacré le temps passé dans le jardin à prier pour que le Seigneur lui accorde la grâce nécessaire pour tenir ferme. Mais voilà, Pierre et les autres disciples étaient si épuisés au terme de leur longue et dure journée, on le comprend, qu'ils n'ont peut-être même pas réalisé à quel point leur force spirituelle avait diminué. Ils étaient certainement beaucoup plus conscients de leur besoin de se reposer physiquement que de leur besoin d'être rafraîchis spirituellement. Et voilà pourquoi, au lieu de renouveler leur force spirituelle par la prière, évidemment, comme Jésus les avait exhortés, eh bien, ils ont préféré se reposer pour reprendre des forces. Voilà donc qui contribue à la chute de notre cher ami Pierre. Il était profondément endormi. Lorsque les soldats sont arrivés pour se saisir de Jésus, Pierre était encore, comme on le dit, dans le cirage, lorsqu'il a impulsivement tiré son épée et frappé Malchus. Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, une personne qui serait bien éveillée et en pleine possession de toutes ses facultés, n'aurait certainement pas agi de la sorte. En fait, il se peut qu'il ne se soit écoulé que 10 minutes entre le moment où les disciples se sont réveillés et celui où ils ont regrettablement décidé d'abandonner Jésus. Si cela est le cas, ils n'ont pas eu le temps, pas du tout le temps de se réveiller complètement. Le plus étonnant, c'est que le moment fatidique venu, ils se sont fait prendre complètement au dépourvu, comme si Jésus ne les en avait pas clairement prévenus si souvent déjà. Il existe un contraste frappant entre Jésus à Gethsémané et les disciples qui s'y trouvaient avec lui. Jésus était là, à l'agonie. Il était affligé à l'extrême, luttant dans la prieure. Il était en train de suer littéralement du sang, tant il était angoissé. Heureux, il dormait à point fermé, inconscient de tout ce que Jésus vivait, insouciant de tout ce dont il les avait pourtant avertis qu'ils auraient à surmonter sous peu, très bientôt. Ils étaient ignorants de l'approche de la foule. Ils avaient tout simplement sombré dans un sommeil charnel. Voyez-vous, même lorsque Jésus les a réveillés et les a exhortés à prier à plusieurs reprises, leur désir charnel de sommeil était tellement fort qu'ils ne sont tout simplement pas parvenus à le surmonter. Considérons ceci. S'ils étaient si faibles qu'ils n'arrivaient pas à trouver la force de demeurer éveillés et de prier avec Jésus, tandis qu'il était si profondément troublé, qu'est-ce qui pouvait bien leur faire croire qu'ils auraient la vigueur nécessaire pour se tenir à ses côtés, surtout lorsque leur propre vie serait bientôt en jeu? L'agonie de Jésus dépassait en intensité tout ce qu'ils avaient jamais vu auparavant. La vue de Jésus en train de suer du sang aurait certainement dû suffire à les ramener à la réalité et à les faire prier avec lui. Mais, ne ressentant que leur propre épuisement physique, ils ont tout simplement fait fi de leurs besoins spirituels bien plus pressants. Ce pourquoi ils ont totalement négligé de prier au moment même où ils pouvaient le moins se le permettre. C'est donc l'heure de vous réveiller enfin, c'est maintenant qu'il vous faut vous réveiller, Romains chapitre 13, verset 11. Et il est vrai que l'absence de prière et l'abus du sommeil conduisent malheureusement, souvent, à la chute de bien des saints. En tout cas, ils ont grandement contribué à celle de notre cher apôtre Pierre. Comme la fanfaronnade de Pierre l'avait déjà, on peut bien dire, gonflé d'orgueil et de suffisance, eh bien rien d'étonnant à ce que le moment venu pour lui de faire ses preuves, il ait tenté de tout régler lui-même en s'appuyant uniquement sur ses propres forces. Si bien que lorsque les huissiers ont voulu appréhender Jésus, Pierre étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Saint Matthieu chapitre 26, verset 51. Son geste s'est avéré impulsif et imprudent. Si seulement Pierre avait obéi à Jésus, ne serait-ce qu'une seule fois ce soir-là, eh bien, il aurait pu s'épargner bien des ennuis. Si seulement il avait écouté Jésus lorsque celui-ci l'a prévenu, ou s'il avait prié lorsque Jésus lui a dit de le faire, alors il aurait été certainement mieux préparé à affronter la situation. Mais voilà, Pierre semblait toujours se croire beaucoup plus avisé que les autres. Bien qu'en agissant à sa guise, il ne se soit tiré ou attiré que toujours davantage d'ennui. Voyez-vous, Jésus avait pourtant prédit à maintes reprises il avait prédit sa propre arrestation et sa mise à mort. Or, à ce moment-là, Pierre ne pouvait pas comprendre toute la portée des paroles de Jésus, mais si seulement il y avait réfléchi plus sérieusement, il aurait peut-être tiré l'épée avec beaucoup moins d'empressement. Voyez-vous, la réprimande que le Seigneur a adressée à Pierre en guérissant par la suite l'oreille de Malchus ou de Malchus a certainement blessé Pierre dans son orgueil bien davantage que sa propre épée n'avait pu blesser Malchus. Et puisque Pierre puisait tout son courage et toute son assurance de son ego, une fois celui-ci dégonflé, Pierre s'est tout simplement retrouvé sans réserve desquelles il pouvait puiser sa force. Et c'est alors qu'il a pris la poudre d'escampette avec les autres disciples. Le dernier pas que Pierre a franchi pour se rapprocher de l'échec, c'est la décision qu'il a prise de suivre Jésus à distance après avoir fui sa présence. Il a tenté de se tenir suffisamment éloigné pour que personne ne puisse le soupçonner d'être un des disciples de Jésus, mais suffisamment près pour voir ce qui se passait. Tactiquement, qu'il a d'ailleurs mené dans le lieu même où il serait le plus fortement tenté, c'est-à-dire la cour du souverain sacrificateur, et au moment même où il était le moins en mesure de résister à certaines tentations. Voyez-vous, la conduite de Pierre se compare d'ailleurs à celle des nombreux croyants qui redoutent de confesser Jésus-Christ ouvertement. Comme ils peuvent éviter de s'identifier publiquement aux chrétiens, ils sont fortement tentés d'agir comme des non-chrétiens. Il y a néanmoins quelque chose d'admirable dans le fait que Pierre n'abandonnera jamais entièrement Jésus, mais il se tiendra assez près pour le suivre tout au long des événements de cette nuit-là. La foi de Pierre est certainement faible, mais elle est véritable. Son amour pour Jésus-Christ ne lui permet pas de l'abandonner complètement. Il se sent donc poussé par cet amour à suivre son maître et à suivre de près les poursuites intentées contre lui, et Jean et Pierre semblent avoir, on peut dire, tous les deux, avoir suivi les soldats chargés d'arrêter Jésus jusqu'à la résidence du souverain sacrificateur, dont les serviteurs connaissaient très bien Jean et lui permettaient, à lui et à Pierre, d'entrer dans la cour. Notez Saint Jean, chapitre 18, verset 16. Là, Pierre est assez prêt pour pouvoir suivre ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, on ne lit plus rien sur notre Saint Jean. Après que Jean a fait entrer Pierre dans la cour, Jean ne restera apparemment pas longtemps sur les lieux. Comme la maisonnée du souverain sacrificateur le connaît très bien, Jean jugera peut-être bien trop grand le risque de s'y faire reconnaître. Et il se peut qu'il entendra Pierre se faire demander s'il est, lui, un des disciples de Jésus. Et si c'est le cas, eh bien, Jean aura dû se dire qu'il n'avait absolument aucune chance de passer incognito parmi tous ces gens-là, et il se sera éclipsé en douce. L'Écriture sainte ne nous révèle pas où Jean s'en ira. Mais le fait, il est là qu'on ne dira rien de plus à son sujet dans le cadre de cette nuit-là. Cela laisse entendre qu'il ne sera certainement pas resté longtemps dans la cour du souverain sacrificateur après y avoir fait entrer son ami Pierre. Pierre a été admis dans la cour lors de l'étape initiale du procès pendant que Jésus se trouve encore sous le toit de Anne. Et ici, presque immédiatement après son admission sur les lieux, il renie Jésus pour la première fois. Donc, Pierre renie Jésus pour la première fois. Alors la servante, la portière, elle dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Saint Jean, chapitre 18, verset 17. Matthieu et Marc s'accordent d'ailleurs pour dire que cet échange a lieu pendant que Pierre se trouve encore dans la cour. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 69 et Saint Marc, chapitre 14, verset 66. Il y est aussi assis là, est-il dit selon Luc. Pierre est assis là, près du feu. Notez Saint Luc, chapitre 22, verset 56. Donc, apparemment, la jeune fille qui sert de portière chez le souverain sacrificateur a regardé Pierre entrer dans la cour et elle a eu des soupçons où elle s'est posé des questions à son sujet. Si bien qu'elle s'est approchée du feu pour le regarder de plus près. Et elle l'a dévisagé jusqu'à ce qu'elle a acquis la certitude de son identité. Il suffit de comparer entre eux les récits des évangiles pour en conclure que le dialogue ne se résume pas à une bravade d'une seule phrase et à une simple réplique. Il s'agit d'un échange prolongé, puisque la jeune fille insiste pour dire que Pierre est un des disciples et que celui-ci le nie avec véhémence. Donc, selon Jean, la portière demande ainsi à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas un des disciples de cet homme ?» Ce à quoi l'apôtre répond, « Je n'en suis point. » Saint Jean, chapitre 18, verset 17. Pour sa part, Matthieu étoffe de quelques détails. Il dit cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Voilà qu'une servante s'approche de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Saint Matthieu, chapitre 26, versets 69 et 70. Le fait que Pierre le nie devant tous, cela laisse entendre qu'il le nie à voix suffisamment haute pour que d'autres témoins l'entendent. C'est que selon Luc, la femme ne se contente pas d'adresser ses accusations à Pierre, mais elle tente également de révéler l'identité de l'apôtre à ceux qui se tiennent autour du feu. Elle a dit, cet homme était aussi avec lui. Saint-Luc chapitre 22, verset 56. Pardon. À cela, l'apôtre Pierre répond en niant catégoriquement de connaître Jésus. Il dit, femme, je ne le connais pas. Verset 57. Marc, quant à lui, nous indique que immédiatement après cet échange avec la servante, Pierre abandonnera la chaleur du feu pour se réfugier loin de la femme qui vient de le reconnaître. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et là, le coq chanta. Notez Saint Marc chapitre 14, verset 68. Alors la conscience de Pierre le tenaille déjà terriblement, et le chant du coq, en présumant que Pierre le remarque, lui rappellera instantanément la mise en garde du Seigneur Jésus, car tout se déroule exactement comme Jésus l'avait prédit, et il se peut même que Pierre cherche désespérément à y échapper. Notons que le vestibule correspond à une petite cour couverte reliant la cour intérieure à la rue. Sûrement ébranlé de ce qu'on l'a reconnu, Pierre cherche peut-être à se rapprocher de la porte au cas, sait-on jamais, où il devrait prendre la fuite en courant. De toute évidence, il cherche aussi un endroit où on le laissera enfin seul, peut-être un endroit où il peut se cacher, pourquoi pas, dans l'ombre, loin de la lumière du feu, afin d'éviter que quelqu'un d'autre puisse le reconnaître. Mais cela ne doit pas se passer tout à fait ainsi. Comme il se dirigeait vers la porte, voilà qu'une autre servante le voit, et elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Mais celui-ci, il était aussi avec Jésus de Nazareth. » Alors Pierre le nia de nouveau, même avec serment. « Non, 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 je ne connais pas cet homme. » Saint Matthieu, chapitre 26, versets 71 et 72. En comparant les récits des évangiles, on découvre que ici plusieurs personnes participent en fait à la mise en accusation de notre cher ami Pierre. Saint Marc nous révèle ceci. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à tous ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Saint Marc, chapitre 14, verset 69. Cela signifie que la même servante, la fameuse portière, revient à la charge contre Pierre en incitant cette fois plusieurs témoins à mettre l'apôtre au défi de nier ses accusations. Quant à Jean, il indique clairement que plusieurs personnes accusent Pierre à ce stade. On lui dit du reste, « Ah oui, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Saint Jean, chapitre 18, verset 25. Luc, pour sa part, rapporte ceci. Peu après, un autre, l'ayant vu, il dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Saint Luc, chapitre 22, verset 58. Ici, Luc emploie la forme masculine. un autre, donnant ainsi à entendre qu'il cite un interlocuteur masculin, ce qu'il confirme d'ailleurs par la réponse de Pierre qui répond « Homme, je n'en suis pas ». Il semblerait alors qu'un petit groupe de gens dans la cour, suivant l'exemple de la première servante, accuse maintenant Pierre en bloc, accusation auquel l'apôtre rétorque par un deuxième reniement. Et ici encore, Pierre semble bien appuyé sur sa dénégation au lieu de détromper ses accusateurs d'un simple non. Notons que après, on peut dire que auprès de la première servante, Pierre a nié de nouveau, est-il dit dans Saint-Marc chapitre 14, verset 69. Et ici, donc ici devant la deuxième servante, celle dont Saint Matthieu fait mention, il le nie, Jésus, de nouveau, mais même avec serment. Il dit, je ne connais pas cet homme. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 72. Voilà donc, on peut dire, pour la deuxième fois, depuis qu'il est entré dans la cour, qu'il nie même de connaître Jésus. Il est d'ailleurs ironique de penser qu'une poignée de servantes et de serviteurs puisse susciter de la part de Pierre une dénégation aussi énergique. Rappelons-nous qu'il y a à peine quelques heures, il a insisté sur le fait qu'il ne renierait jamais Jésus, même au prix de sa vie. Or, dans le jardin, il était même prêt à se battre à l'épée contre un grand groupe d'hommes armés. Mais voilà qu'ici, il suffit que quelques jeunes femmes l'identifient comme étant le disciple de Jésus pour l'intimider. C'est que Pierre, qui a récemment déclaré haut et fort être tout à fait prêt à se défendre contre toute attaque à sa loyauté, courbe maintenant l'échine sous le poids d'un harcèlement insignifiant. Il s'est manifestement préparé à une attaque frontale, accompagnée de la menace de représailles violentes contre lui, et voilà pourquoi dans le jardin, il a réagi si promptement à l'intrusion des assaillants armés, comme s'il s'était préparé à affronter seul toute une armée entière. Mais son incapacité à prendre position pour Jésus, même contre les taquineries, des taquineries de jeunes femmes et de quelques serviteurs, cela démontre à quel point Pierre y est en fait bien peu préparé. Ici, Satan expose donc sa vulnérabilité et dévoile qu'au bout du compte, Pierre n'a pas besoin qu'on le menace ouvertement de représailles violentes ou qu'on s'en prenne à sa vie pour le pousser à renier son maître. Le deuxième reniement de Pierre, qu'il accompagne d'un serment, constitue une transgression encore bien plus grave que son premier. En effet, par un serment. Eh bien oui, on engage littéralement Dieu le Père à être témoin de la véracité de notre témoignage. Or, parmi la société de l'époque, on considère le serment comme étant les liens de la vérité absolue, la vérité la plus sacrée qui soit, et le fait même de joindre un faux serment, je dis bien, à ses mensonges. Cela revient à prendre le nom du Seigneur en vain, et cela de manière la plus blasphématoire possible, et donc à tenter de prendre Dieu à témoin d'un mensonge. Ce faisant, Pierre pêche clairement, de manière délibérée. C'est qu'il est maintenant tombé dans le sinistre piège qu'il s'est lui-même tendu et dont il ne peut s'extirper pour le moment. Voyez-vous, le serment de Pierre semble avoir pour effet d'étouffer les accusations qu'on vient de porter contre lui, car Saint Luc déclare qu'il s'écoulera encore une heure avant que Pierre ne renie Christ une dernière fois. Apparemment, Pierre s'est trouvé un endroit dans la cour d'où il lui est possible de bien voir ce qui arrive à Jésus à l'intérieur de la maison. Aura un moment donné, dans le courant de l'heure, Caïphe parviendra à faire prononcer à Jésus les paroles que le Sanhédrin juge blasphématoires. Notons que Marc indique que Jésus se fait frapper, bander les yeux et cracher au visage avant que Pierre ne le renie. Saint Marc chapitre 14, versets 64 à 66. Ce qui signifie que l'apôtre doit être témoin des sévices, des terribles choses que son maître subit maintenant. Entre-temps, les gens dans la cour discutent. Ils discutent de Pierre et de sa relation avec Jésus. Et après quoi, ils en viendront à le confronter à la raison qui les pousse à croire, avec une certaine certitude, que Pierre est un des disciples de Jésus. Et peu après ceux qui étaient là s'étant approchés, on dit à Pierre, « Mais certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage même te fait reconnaître. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 73. Dans ce cas-là, Saint Luc fait une précision. Il dit, un autre insistait en disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Saint Luc chapitre 22, verset 59. Cette fois-ci, les accusateurs de Pierre ont également un témoin oculaire, c'est-à-dire un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait pourtant coupé l'oreille. Et ce serviteur-là dit, plutôt ce souverain serviteur, « Ne t'ai-je pas vu, moi, quand tu étais avec lui ?» c'est-à-dire avec Jésus, dans le jardin. Saint Jean, chapitre 18, verset 26. Le fait qu'un des parents de Malchus reconnaît Pierre et se rappelle l'avoir vu lors de l'arrestation de Jésus à Gethsémané semble avoir très durement secoué l'apôtre, à tel point qu'il se met maintenant, malheureusement, a juré. Il dit, je ne connais pas cet homme. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 74. Notons qu'il ne s'agit probablement pas du genre de vulgarité grossière et de jurons qu'on entend normalement par là. En fait, cela signifie que Pierre prononce ici, maintenant, une malédiction contre lui-même, souhaitant que Dieu le frappe à mort s'il ne dit pas la vérité, pour ensuite prononcer un autre serment, prenant Dieu le Père de nouveau à témoin, comme quoi il ne connaît pas Jésus. Là, il s'agit du serment le plus solennel qu'on puisse faire. Ainsi, celui qui fait un tel serment pour couvrir un mensonge, profère le mensonge le plus répréhensible qui soit, car il combine un simple mensonge avec un blasphème non déguisé, comme si Dieu témoignerait d'un mensonge, s'attirant ainsi le jugement de Dieu du même coup. Mais ici, Pierre semble avoir perdu totalement toute notion de la véritable présence du Seigneur. Il souhaite tellement désespérément corroborer son propre mensonge qu'il fait maintenant fi de toute prudence. Et puis, il est écrit qu'au même instant, comme il parlait encore, voilà que le coq chanta. Saint Luc chapitre 22, verset 60. Selon saint Marc, c'est ici la deuxième fois que le coq chante. Or, notons que Marc est le seul auteur d'un évangile qui rapporte que Jésus a dit, avant même que le coq chante, deux fois, « Toi, Pierre, tu me renieras trois fois. » Saint Marc, chapitre 14, verset 72. Et notez aussi le verset 30. Les autres auteurs mentionnent simplement le fait que le coq a chanté sans en préciser le nombre de fois. Apparemment, Marc note ce détail pour mettre en évidence la précision avec laquelle Jésus a prédit le manquement de Pierre. Il ne fait donc aucun doute que Pierre informera lui-même plus tard saint Marc de cet incident pénible, car après tout, dans l'Église primitive, on appelait l'Évangile selon Marc les mémoires de l'apôtre Pierre. Car en matière de sources humaines, c'est manifestement de Pierre surtout que Marc tenait tous ces détails uniques. Il se peut donc que Pierre souhaite lui-même de préciser que le coq chante ici à deux reprises, pour souligner combien le Seigneur s'est montré tellement patient envers Pierre, en lui donnant autant de signaux d'alarme et de gages de sa grâce, de son amour, même si Pierre, fidèle à ses voies pécheresses, persiste pourtant momentanément à le renier. Voyez-vous, chers amis, c'est précisément maintenant, au moment où le coq chante pour la deuxième fois, que selon saint Luc, le Seigneur s'étant détourné, regarde Pierre, et Pierre se souvient tellement bien de la parole que le Seigneur lui a dite, quand il lui a dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Saint Luc, chapitre 22, verset 61. Or, le Seigneur doit se tenir précisément là où il peut se retourner et fixer Pierre dans les yeux, et ceci par une fenêtre qui est ouverte, et son visage déjà meurtri par les coups, s'étant tout juste fait frapper et cracher dessus par des impies, se tourne à l'instant même vers Pierre pour croiser de son regard tendre mais omniscient celui de Pierre et le plonger ainsi dans l'âme de l'apôtre. Ici, Luc décrit un regard fixe, comme lorsque on dévisage quelqu'un. Il ne s'agit pas du tout d'un regard accusateur, mais d'un regard tendre et pénétrant qui brisera le cœur de Pierre. Tandis que les regards de Jésus et de Pierre se croisent, l'apôtre se souvient. Et voilà, étant sorti, est-il dit, il pleure amèrement. C'est Matthieu chapitre 26, verset 75. Or, la véritable nature de Pierre, elle se révèle non dans son reniement de Christ, mais dans sa repentance immédiate. Notons tout d'abord avec quelle rapidité il se repent, car aussitôt que le coq chante et que Jésus-Christ regarde Pierre, celui-ci fait une prise de conscience et il quitte la propriété du souverain sacrificateur pour aller seul pleurer amèrement. Nul ne mentionne où Pierre s'est rendu. Il est possible qu'il est retourné à Gethsémané, ce lieu familier où Jésus avait l'habitude de se retirer en soirée avec ses disciples, là même où il aurait dû pleurer et prier plusieurs heures auparavant. Mais le fait est que Pierre n'attend pas pour se repentir que le moment s'y prête. Il se rappelle immédiatement les paroles de Jésus et la tendre mise en garde qu'il a si catégoriquement rejetée il y a quelques heures à peine pour confesser maintenant sur le champ ses torts et de s'abandonner à la grande tristesse qu'il lui cause maintenant. Chers amis, des larmes de repentance ne peuvent jamais expier les péchés. Seule la mort de Jésus en est capable. Je répète, nos larmes de repentance ne peuvent pas expier nos péchés. Seule la mort de Jésus à la croix en est capable. Mais une tristesse sincère constitue néanmoins un signe important de repentance véritable qui signale un réel changement d'attitude et de cœur. Cependant, les diverses formes de tristesse n'attestent pas toutes une véritable repentance, comme ceci en témoigne en effet cette triste histoire de Judas, comme nous le verrons sous peu. Judas exprimera aussi de la tristesse, selon saint Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Judas regrettera ce qu'il a fait et tentera même de remettre l'argent du sang au chef religieux. Il se sentira coupable à tel point qu'il finira par sortir pour aller mettre fin à ses jours, pour aller se suicider. Mais voyez-vous la tristesse qui l'aura envahi. Elle est simplement charnelle et elle ne peut conduire que à la mort, bien qu'elle puisse pousser quelqu'un a un sincère regret, a regretté les conséquences de son péché, soit des regrets d'avoir perdu de son prestige, d'avoir perdu peut-être des amis ou d'avoir perdu son influence, mais tout cela ne reflète aucun changement de cœur. Et donc, aucune véritable contrition quant au péché en tant que tel. Voyez-vous, la tristesse de Pierre, elle est d'une toute autre sorte, puisqu'il est écrit, il pleura amèrement, et croyez-moi, sincèrement. Saint Matthieu chapitre 26, verset 75. Il s'agit de la tristesse la plus profonde qui soit, elle est empreinte de la honte d'avoir péché, la honte d'avoir commis un péché. Même plus que cela, il s'agit de la haine du péché en soi et du désir désespéré d'être aussitôt de pouvoir être réconcilié avec Jésus-Christ. En fait, peu après la résurrection, Pierre décidera de reprendre son ancien métier de pêcheur en amenant avec lui plusieurs disciples. Saint Jean chapitre 21, verset 3. Et c'est alors que Jésus-Christ leur apparaîtra à eux seuls. Et Jésus questionnera Pierre sur son amour pour lui. Il le fait à trois reprises. Il lui dit, Pierre, Pierre, toi qui as renié, qui m'as renié, il lui dit à trois reprises, et toi, Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ce faisant, Jésus le rétablira dans le ministère, prouvant qu'il est capable de pardonner même un péché aussi grave, dans la mesure où le pécheur s'en repent très sincèrement. Oh oui, car à trois reprises, Pierre l'avait renié. Et à trois reprises, j'ai oublié de vous le dire, Jésus lui demandera s'il l'aime vraiment. Et à trois reprises, l'apôtre Pierre lui affirmera, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Or, la repentance de Pierre est absolument sincère. Il ne reniera plus jamais Jésus. En fait, écoutez bien, pendant tout le reste de sa vie, Pierre se distinguera par sa proclamation courageuse de Jésus, et cela même dans les situations les plus hostiles, si bien que à peine 50 jours après l'horrible nuit du reniement de Pierre, celui-ci se tiendra devant des milliers de gens à Jérusalem le jour de la Pentecôte, où il prononcera un des sermons les plus audacieux et les plus percutants jamais prêchés. Dès ce grand triomphe de la Pentecôte, le Seigneur se servira d'ailleurs de Pierre pour amener d'innombrables gens à Jésus-Christ. Notez Actes des Apôtres, chapitre 2, jusqu'au chapitre 12. Voyez-vous la merveilleuse manière dont Jésus-Christ pardonnera et rétablira Pierre. Pardon. cela prouve bel et bien toute la sincérité de la repentance de l'apôtre. Comme il n'oubliera jamais plus l'arrière-goût amer de son reniement, il ne commettra jamais plus ce fameux péché terrible. Selon une légende ayant beaucoup circulé dans les églises primitives, il paraît que tout le reste de sa vie, Pierre, il pleura chaque fois qu'il avait entendu un coq chanter. Toutefois, ce qu'il y a de plus remarquable dans tout cet épisode-là, c'est la profondeur de la grâce et le mystère du pardon qui ont le pouvoir de rétablir un saint qui a été déchu, comme l'apôtre Pierre, pour le rétablir totalement dans un ministère d'une utilité extraordinaire. Donc, encore ici, l'Écriture sainte ne met pas l'accent sur le caractère ignoble et scandaleux du péché de Pierre. En fait, si chacun des quatre évangiles renferme intégralement cet épisode, eh bien c'est principalement pour mettre en évidence la grâce que Pierre se verra octroyer ultérieurement. Donc cet épisode de sa vie, elle prouve hors de doute avec quelle assurance merveilleuse et on peut dire irréfutable, Jésus-Christ préserve tous ceux, vous et moi y compris, qui lui appartiennent. Jean chapitre 6, versets 37 à 40. Quelques heures avant que Pierre le renie, rappelons-nous que Jésus a prié ainsi. J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Saint Jean chapitre 17, verset 12. Jésus savait bien que Pierre allait tomber, mais il savait également que l'apôtre allait s'en repentir et se faire rétablir après sa défaillance, tout comme il savait que Judas allait en venir à le trahir à cause de son rejet final et irrémédiable de la vérité. Or, la repentance de Pierre et l'apostasie de Judas cadrent parfaitement dans le plan et dans les desseins de Dieu. Comme l'apôtre Pierre appartient réellement à Jésus-Christ, celui-ci l'empêchera de tomber si bas qu'il en serait détruit. Pierre citera d'ailleurs plus tard la puissance protectrice de Dieu pour encourager tous les chrétiens qui sont menacés d'être persécutés. Et je vous demanderai, mes chers amis, s'il vous plaît, notez et lisez soigneusement la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7. Il ne fait aucun doute qu'en rédigeant ce passage, l'apôtre Pierre rappellera son propre vécu. Après tout, il sait mieux que quiconque combien merveilleuse est la protection de Dieu. Il sait pertinemment que sa sécurité ne dépend pas du tout de sa fidélité, mais s'il demeure dans la foi, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Oui, chers amis. Pour terminer, l'apôtre Pierre incitera les pécheurs à se tourner vers celui qui peut réellement les préserver de toute chute et les faire paraître irréprochables devant le trône de Dieu. Jude, verset 25. C'est le Seigneur qui a préservé l'apôtre Pierre, et c'est encore le Seigneur qui, en définitive, procure la véritable sécurité à tous les croyants, vous et moi y compris. Nos propres tendances charnelles risquent de nous emplir de doutes, de craintes et d'incertitudes, et ainsi en est-il. Mais c'est sur sa fidélité que nous devrions compter pour avoir la force et le courage qui nous sont nécessaires, car si nous sommes infidèles, lui, Jésus-Christ, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Amen. Chers amis, je ne sais pas si nous avons le temps de faire une toute petite prière. Essayons. Splendide est la gloire du Père, clarté qui produit la clarté, jour qui rend le jour lumineux, et qui brille d'un éternel éclat et qui fait resplendir dans nos cœurs la lumière de l'Esprit Saint. Que Christ soit notre nourriture, que la foi soit notre boisson. Enivrons-nous, oui, joyeux et sobres, du breuvage de l'Esprit Saint, que ce jour s'écoule joyeux dans le matin de la pudeur, dans le plein midi de la foi, sans crépuscule pour notre âme. L'aurore poursuit son chemin, qu'avec elle, vers nous, s'avance le Fils tout entier et son Père, et le Père tout et son Verbe. À Dieu le Père soit la gloire, à son Fils unique de même, ainsi que l'Esprit Paraclet, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, pour la suite de cette série importante, que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous que Dieu vous aime, et je vous aime de tout mon cœur, et je vous enlace maintenant. Et je vous embrasse tous, et je vous dis, soyez bénis. Amen.